dans le camping, les soirées du lundi sont dignes de celles d'un samedi soir.
C'est à la France que fut confiée l'organisation du 10e rallye international de camping.
La zone la plus touchée, c'est celle du camping.
Radio Camping Paris.
C'est tout l'été, du lundi au jeudi, de 19h à 20h.
Nous produisons chacun environ 360 kg de déchets par an, soit environ 1 kg par jour. La face cachée de ce que nous consommons tous les jours, nourriture, mais aussi vêtements, portables, meubles, médicaments, autant de produits consommés et de déchets générés. Mais la bonne nouvelle, c'est que nos déchets sont souvent des ressources et que des idées lumineuses surgissent chaque jour pour les diminuer. Il y a quelques jours d'ailleurs, j'ai fini le dernier livre de Bea Johnson, cette Française installée aux États-Unis avec son mari et leurs deux fils, qui ne produit qu'un bocal de déchets par an. Et dans le bocal 2015, par exemple, on pouvait trouver une coque de téléphone usée, de vieux joints d'évier, des morceaux de scotch ou de la mousse usée d'un casque de vélo. Les seuls déchets que Bea n'a pas pu recycler ou réutiliser. Et c'est elle qui a lancé cette grande tendance zéro déchet, c'est-à-dire essayer de produire le moins de déchets possible. Et il faut avouer que souvent, on se sent mieux hein, quand on remplit moins sa poubelle. Et maintenant, tout le monde s'y met. Les particuliers, les entrepreneurs, les villes et aussi les grosses entreprises. En effet, les collectivités ont un nouveau mot d'ordre, réduisons nos déchets. Mais enfin, il y a encore du boulot avant que tout le monde ne devienne zéro déchet lui aussi. Ne vous y trompez pas, les déchets comme ça, ça n'a pas l'air sexy, mais de nombreuses idées positives et inventives naissent dans ce domaine. Et pour en parler ce soir, nous avons avec nous Elder De Oliveira, de l'Ordif, bonsoir. L'Observatoire Régional des Déchets d'Île-de-France, à ses côtés Aladin Charny, du Frigan Pony, bonsoir. La première cantine participative Frigan d'Europe, on expliquera ce que c'est tout à l'heure. Et Pauline Vallée, qui est avec nous, bonsoir. Pauline qui est étudiante et adepte du mode de vie zéro déchet, membre également du mouvement Zero Waste France, qui va nous expliquer de quelle façon elle met en place cette démarche chez elle. Et à mes côtés, il y aura Grégoire, bonsoir Grégoire, qui co-animera cette émission, ainsi que notre chroniqueuse de la soirée, c'est Anna. Bonsoir Anna.
Bonsoir.
On vous explique donc comment bouger simplement de votre côté pour réduire vos déchets sur Radio Campus Paris, sur le 93.9 jusqu'à 20h.
Radio Camping Paris. Du lundi au jeudi, cet été, de 19h à 20h.
Et bonsoir Elder De Oliveira. Vous êtes, rebonsoir, vous êtes directeur de l'ORDIF, l'Observatoire Régional des Déchets d'Île-de-France. Un petit mot sur l'ORDIF justement et ses missions.
Alors, l'ORDIF est un observatoire qui regroupe l'ensemble des acteurs qui sont concernés par les déchets. Alors qui sont concernés par les déchets? D'abord l'État qui réglemente, mais aussi les collectivités qui collectent les déchets ménagers, les industriels qui produisent des déchets ou qui les traitent, les associations de protection de l'environnement comme Zero Waste France, ou aussi les éco-organismes. C'est un truc qu'on a dans les déchets qui est tout à fait spécifique, qui représente ceux qui mettent sur le marché des produits qui un jour deviendront des déchets. Et tous ces gens travaillent ensemble pour se mettre d'accord sur les données, sur ce qu'il se passe vraiment dans le secteur et intrinsèquement ce qu'on pourrait faire pour l'améliorer.
Alors, on parlait en introduction de 360 kg de déchets ménagers produits par an et par Français. Quels sont dans ces déchets ménagers nos plus gros déchets et ceux qui représentent du coup le plus fort levier de réduction?
Alors, ce sont des déchets ménagers et assimilés. Et en Île-de-France, il n'y en a pas 360, il y en a 462 kg. Voilà. Et assimilés, ça veut dire qu'il n'y a pas seulement les déchets que vous produisez quotidiennement chez vous, mais il y a aussi les déchets qui sont produits dans les entreprises, mais qui sont collectés par les collectivités. Et en fait, tout ça, c'est une toute petite partie de l'ensemble des déchets, parce qu'il y a aussi les déchets des entreprises et les déchets du bâtiment, des travaux publics, les terres, etc. Et ça, c'est la plus grosse partie des déchets. Et dans les déchets ménagers, malheureusement, ce qui se voit le plus, c'est ce qu'on collecte en mélange. Il y en a 3,5 millions de tonnes en Île-de-France qui sont collectées en mélange. Et ça veut dire que c'est en Île-de-France incinéré, et on fait de l'énergie avec. Il y a un réseau de chaleur qui s'appelle. Il y a plusieurs réseaux de chaleur qui sont alimentés par ça. Mais il reste quand même dans ce mélange beaucoup de choses dont on pourrait faire des ressources. Et sur les 3,5 millions de tonnes, il y a 2 millions de tonnes qui sont soit des déchets organiques, faire des choses qui pourrissent, donc qui brûlent mal, c'est peut-être dommage de les brûler, et qui pourraient faire du compost ou qui pourraient faire du méthane, c'est-à-dire ce gaz naturel qui vient de la putréfaction. Et donc il y a 2 millions qui sont des organiques, il y a 2 millions de déchets qui restent qui sont recyclables, 1 million qui sont des organiques et 1 million qui sont des déchets recyclables, le papier, les métaux, le verre, là aussi qui sont dans le mélange alors qu'ils pourraient être retirés et on pourrait en faire des nouvelles matières premières. Donc il y a un gros potentiel en Île-de-France.
Donc il y a un gros effort apparemment à faire sur le tri des déchets, hein, c'est ça ? Les ménages ne sont pas assez bons sur le tri en Île-de-France ?
Alors oui, on peut dire que c'est la faute des ménages, mais je pense que c'est une faute collective. Hein. Tout le monde peut participer à ça, les ménages, les collectivités pour entraîner le dispositif, faire de la communication, faire une réglementation adéquate. Voilà. Il y a, comme en Île-de-France, on est le champion de l'incinération depuis plus d'un siècle avec cette production énergétique, on est peut-être un peu moins bon sur le recyclage. Voilà, quand on est très fort sur un sujet, on a du mal à être fort sur tous les autres.
Et dans cette part des déchets, il y a aussi une grande part allouée au gaspillage alimentaire, finalement. Quelle est cette part ? Est-ce que vous avez plus d'informations à nous donner, peut-être Aladin, sur le gaspillage alimentaire, vous qui
travaillez là-dessus ? Alors, sur le gaspillage alimentaire, on est à 1,3 million de tonnes de fruits, enfin, de déchets alimentaires en France par an. Et on a 30% des aliments qui sont produits à travers le monde vont à la poubelle entre le moment où ils sont produits et le moment où ils arrivent sur les étals des marchés et des supermarchés, ce qui est énorme.
Et alors d'après vous, c'est sûr, là on voit que grâce à ce gaspillage alimentaire, on peut carrément alimenter une cantine, un restaurant. D'après vous, pourquoi est-ce que les supermarchés jettent autant ? Quel est le problème dans les supermarchés ?
Tout d'abord parce qu'un fruit et légumes, quand ils sont achetés à des producteurs, à des prix assez bas, ils n'ont pas énormément de valeur, donc ils peuvent être jetés facilement par les supermarchés. Ensuite, les supermarchés cherchent à avoir des rayonnages constamment pleins, ça fait vendre. C'est un peu stupide comme mode de fonctionnement, mais c'est comme ça qu'ils conçoivent leur manière de vendre des aliments. C'est vrai que nous, au Frigan Pony, on s'est rendu compte assez rapidement de tout ce gâchis. On a vraiment décidé de les utiliser pour nourrir les Parisiens et les Franciliens.
Et peut-être d'ailleurs qu'il y a des gestes à adopter en supermarché pour que nous, clients, évitions de faire du gaspillage alimentaire, enfin évitions que les supermarchés fassent du gaspillage alimentaire.
Alors ça, en fait, il y a un projet de loi qui est passé il y a à peu près 6 mois qui incite les supermarchés de plus de 400 mètres carrés à donner leurs déchets, leur rebut, leur surplus, à des associations. Ils sont incités à les donner parce qu'en fait, s'ils les donnent, ils ont une exonération d'impôt à hauteur de 60% de la valeur de ce qu'ils jettent. Donc il y a deux structures qui sont créées, Écosphère et Phoenix, qui mettent en lien les supermarchés et les associations. Donc sur Paris, c'est relativement efficace. Il y a de moins en moins de magasins qui jettent à la poubelle. Donc il y a toujours du gâchis, mais c'est redistribué aux associations.
Très bien. Et vous parliez tout à l'heure, Elder de Oliveira, du déchet du BTP. En effet, hein, il faut savoir que les déchets du BTP représentent 30 millions de tonnes de déchets contre 5 millions de tonnes pour les déchets ménagers assimilés. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas déjà un effort à faire, justement, sur les déchets du BTP avant tout ?
Oui, il y a beaucoup d'efforts à faire sur tous les segments. C'est impressionnant parce que ça fait beaucoup de tonnes. Mais sur ces 30 millions, il y en a 18 millions qui sont des terres, en fait. C'est quand vous creusez, vous faites de la terre. Alors, est-ce que c'est vraiment un déchet ? Nous, ça rentre dans notre réglementation. Mais c'est surtout de la terre dont qu'on peut utiliser pour faire des remblais, par exemple. Et la réglementation est de plus en plus encadrante, parce qu'on faisait parfois n'importe quoi dans le temps. Et qu'on peut utiliser aussi pour récupérer de la matière de construction. Et c'est ça les enjeux des prochaines années. Surtout les segments de déchets, c'est de créer, on parlait tout à l'heure de ressources, c'est de créer une ressource à partir des déchets. Les déchets en eux-mêmes ne sont pas des ressources, mais à partir du moment où on les a extraits, on les a triés, on les a reconditionnés, ils peuvent devenir des ressources. Et les terres, par exemple, on peut pas seulement remblayer par exemple une ancienne carrière, ce qui est déjà intéressant, mais on peut aussi essayer d'en retirer le granulat pour construire des nouvelles maisons. Et ça, c'est ça qu'on appelle l'économie circulaire, c'est-à-dire redonner de la valeur aux déchets pour le réintégrer dans un processus de valeur et un processus productif quelque part. Et c'est vrai pour les terres, c'est vrai pour les déchets organiques avec le compostage et la méthanisation, c'est vrai pour les matières toutes recyclables. Et puis c'est vrai, j'aurais dû en parler, en amont, pour toutes les démarches de réutilisation, de réemploi. C'est-à-dire qu'on ne va pas seulement sauver la matière, on va aussi sauver les produits. Et là, on fait encore plus d'économies. Parce que donc quand on réutilise quelque chose, on n'a plus besoin de toutes les ressources qu'on a utilisées pour fabriquer ce quelque chose. Parce que les déchets, ce qu'on voit, c'est que la partie émergée d'un iceberg. Et on voit ce qu'on jette, notre poubelle, mais en dessous, il y a toutes les ressources qu'on a utilisées pour fabriquer ce qu'on est en train de jeter. Ça veut dire de l'eau, par exemple, sur le gaspillage alimentaire. Aux États-Unis, il y avait une étude qui montrait que le gaspillage alimentaire d'une année aux États-Unis, ça correspondait à la consommation d'eau pour 1,5 milliard de personnes pendant un an. Voilà. Donc toute cette eau était gaspillée puisqu'on les avait jetées. Mais on peut faire pareil avec l'énergie, avec les gaz à effet de serre, avec la matière, qu'on appelle le sac à dos écologique, etc.
D'accord, donc on ne gaspille pas seulement un produit, mais on gaspille aussi toutes les ressources qui ont servi à fabriquer ce produit.
Les ressources et les impacts, comme les gaz à effet de serre.
Et en parlant de tri des déchets, justement, à Paris, nous avons tous une poubelle ménagère, normalement, et une poubelle de tri. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire, justement, où vont ces poubelles, finalement, notre poubelle ménagère, la poubelle de notre cuisine, qu'est-ce qu'elle devient, et que devient également la poubelle de tri, qu'est-ce qu'on peut faire avec tous ces déchets recyclables?
Alors, vous avez beaucoup plus que ça à Paris, en fait, mais vous avez d'abord ce qui est collecté par la collectivité et ce qui ne l'est pas. Par exemple, les piles, c'est essentiellement collecté par les vendeurs de piles. Et dans ce qui est collecté par la collectivité, vous avez des déchets occasionnels, c'est-à-dire les encombrants, ou qui sont soit amenés dans les déchetteries, soit déposés et collectés par la ville. Mais vous parliez plus exactement des déchets quotidiens, qu'on appelle les ordures ménagères. Et là, vous avez trois flux. Vous avez un flux pour le verre, pour les bouteilles en verre, et la moitié des bouteilles en verre sont collectées à travers ce flux. Et donc celles-là, elles vont directement chez des fabricants de bouteilles. Donc elles sont cassées, enfin, dans le transport, etc., elles sont cassées, et on refait du calcin, et avec le calcin, on refait des nouvelles bouteilles.
Et le verre qui se recycle à l'infini, d'ailleurs.
Hein. À l'infini, voilà. Il y a toujours un petit peu de déchets, mais il se recycle pas mal. Ensuite, dans le bac jaune à Paris, vous avez ce qu'on appelle les multimatériaux, c'est-à-dire tous les recyclables hors verre, au sens français du moment, c'est-à-dire le papier et du carton. En fait, l'essentiel, c'est du papier et du carton. Mais il y a aussi des métaux, des boîtes de conserve, des canettes, et aussi certains plastiques, c'est-à-dire ce qu'on appelle les flacons plastiques dont on se sert pour boire ou pour les cosmétiques, etc. Et dans certains quartiers de Paris, on commence à, comme le troisième, on commence à étendre ces consignes à d'autres plastiques. Voilà. Pas seulement les flacons, mais tous les autres plastiques. Tous ces multimatériaux vont dans un centre de tri, qui est une usine. Il y en a une à Paris dans le 15e, il y en a plusieurs en construction, notamment au Batignolles ou autour de Paris. Et cette usine sépare tous ces multimatériaux par matériaux et les met dans des balles, par couleur pour certains, par exemple pour les plastiques, par matière, par qualité. Et ensuite, chaque matériau reconditionné part dans des filières de recyclage. Donc le papier, il part en péniche jusqu'à Rouen pour faire du papier journal. Le plastique, il peut aller dans une usine qui est à Limay, où on fait des bouteilles plastiques à partir de granulats d'anciens plastiques. Le carton, c'est pareil, etc. Chaque filière permet de refaire de la matière, non pas à partir de ressources vierges, mais à partir des ressources que vous avez collectées chez vous. On dit comme ça que, pour le papier, par exemple, que Paris est une forêt urbaine. Et donc, on n'utilise encore qu'un quart des potentialités.
Et voilà pourquoi il est important de bien trier chez soi. Et on va s'écouter une petite musique avant de reprendre notre émission. Il s'agit de In the Canopy de Rules of Past.
The sun is high, my shoes off. Tiptoeing out is a rule now. Flying fish is freaking out. Japanese showing their guts. Resignation in your shouts. The sun is high, my shoes off. I look around and take it slow. The birds are naked like rats. My parents died before that. Climb up the trees to get high. Children won't play war no more. Too pretend. Primary car.
attend vite la fin de tout. Quand le parterre chancellera et que les miens s'en mêleront, c'est là que ça prendra du goût.
Et un cassoulet pour la 3.
Oh non!
Une soupe de poisson et une salade César pour la 2.
C'est pas vrai, c'est un cauchemar.
Bonjour, je m'appelle Ben.
Bonjour Ben!
C'est Big Ben.
J'étais boulimique. Tout a commencé quand j'ai été engagé dans ce restaurant et...
Vas-y Benji, fais ton sac!
Au début, c'était chouette. Je mangeais toutes les fonds d'assiette. Mais très vite, je me dégoûtais. Je grossissais, grossissais, je rentrais même plus dans mes sacs. Ma famille m'accablait. Pourquoi tu fais pas comme ton cousin Compost? Il vit à la campagne et blablabli, blablabla. Par chance, les boîtes à emporter sont arrivées. Les clients ont commencé à emmener la fin de leur repas chez eux. Je suis maintenant une poubelle heureuse. Au restaurant, ne jetez plus la fin de votre assiette. Adoptez un doggy bag.
Sauvez-nous!
Luttons tous contre le gaspillage alimentaire.
Et c'était un spot sur les poubelles et la réduction des déchets de la région Île-de-France. Et quand on parle de déchets, on pense souvent au tri sélectif et à la poubelle jaune, mais selon le vieil adage, le meilleur déchet est celui que l'on ne produit pas. Donc nous allons aller voir du côté du Frig & Pony qui lutte contre le gaspillage alimentaire avec Alain Charny, fondateur du Frig & Pony, première cantine participative Frigan d'Europe. Alors est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu ce qu'est le mouvement Frigan?
Alors le mouvement Frigan, c'est un mouvement de personnes qui ne se nourrissent que d'aliments voués à la destruction. Concrètement, c'est des personnes qui récupèrent dans les poubelles des supermarchés, comme c'est mon cas depuis 7 ans maintenant. C'est un mouvement qui est né aux États-Unis il y a 25 ans. Enfin, le terme a été inventé il y a 25 ans, mais il y a des Frigan depuis toujours. Ma mère récupérait dans les poubelles du supermarché où elle travaillait il y a 30 ans, mais elle ne se disait pas Frigan et pourtant elle l'était.
Donc vous cuisinez finalement au Frigan Pony des déchets, des choses que vous récupérez dans les poubelles.
Alors dit comme ça, ce n'est pas très sexy. On cuisine des fruits et légumes qui auraient dû partir à la poubelle, effectivement. Donc je rassure tout le monde, on ne les récupère pas dans les poubelles. On va voir directement les grossistes qui soutiennent le projet et qui nous donnent les fruits et légumes directement dans les cagettes, souvent par palette entière. Et oui, donc on les cuisine 4 fois par semaine, entrée, plat, dessert, cuisiné par un vrai chef.
Et alors pourquoi est-ce qu'ils sont voués à la destruction, ces légumes?
Alors tout simplement parce qu'il y a un surplus, ils n'ont pas réussi à les vendre. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Rungis, les fruits et légumes qui sont jetés sont impropres à la vente, mais totalement propres à la consommation. Impropres à la vente, ça veut dire c'est quoi? Ça veut dire qu'un fruit et légume commence à peine à mûrir, enfin il est juste normal, sauf qu'il est plus vendable parce qu'un acheteur il a envie d'avoir un fruit et légume limite pas mûr, parce que le temps qu'il arrive sur les étals des marchés et des supermarchés, le français moyen n'en voudra pas. Voilà, parce que le français moyen il a envie d'une belle tomate bien rouge, bien brillante, quitte à ce qu'elle n'ait pas de goût, il la préfère comme ça. Donc c'est pour ça que pour eux ce n'est plus vendable. Et pour nous c'est parfait parce que c'est totalement cuisinable. Alors effectivement parfois on a quelques fruits et légumes qui sont abîmés, certains sont pourris, mais c'est pas très grave, c'est ce qu'on appelle le tri, on prend 5 minutes, on trie et voilà.
Donc c'est un menu finalement différent tous les jours.
Oui, alors chaque matin quand on va à Rungis, on envoie un texto au chef du jour, parce que chaque jour c'est un chef différent. un ou une chef d'ailleurs, et il décide seul du menu qu'il souhaite concocter, et il se débrouille. Voilà. Donc il a ses fruits et légumes, c'est à lui de gérer à ce niveau-là. Donc effectivement, le menu change tous les jours. C'est un menu végétarien, bien sûr, parfois vegan, en fonction des chefs qu'on reçoit le jour même. Donc voilà.
Et c'est donc des bénévoles qui font tourner cette association. C'est un cuisinier bénévole qui cuisine aussi tous les jours pour le Fringant Pony.
Alors, en ce qui concerne les chefs, on a décidé dès le début qu'il fallait les rémunérer parce qu'ils ont comme responsabilité de faire 80 à 100 couverts avec entrée, plat, dessert, ce qui est une grosse responsabilité. Donc effectivement, on les paye beaucoup moins cher que ce qu'ils sont payés dans les restaurants où ils bossent. Donc c'est un prix symbolique, mais ça nous paraissait important de valoriser leur travail. Et eux sont chaque soir secondés par une équipe de 5-6 volontaires qui ont envie de participer au projet, qui ont envie de cuisiner ou juste apprendre des tips en cuisine.
D'accord. Alors, vous n'êtes pas les seuls sur ce créneau. On note aussi l'existence d'une marque de confiture très récente, les confitures rebelles qui sont fabriquées à partir de denrées récupérées. Mmh. Et on note aussi l'existence de l'association Disco Soup qui, elle aussi, cuisine des denrées récupérées en musique pour les distribuer ensuite gratuitement. Et est-ce que, d'après vous, on n'aurait pas plutôt intérêt à travailler à la source de ce gaspillage plutôt que de trouver à chaque fois des solutions de récupération, finalement ?
Alors, peut-être, mais ça, c'est à l'état de légiférer. En France, on est quand même le pays en Europe où la législation sur le gâchis alimentaire est le plus avancée. Alors, c'est pas parfait, clairement. La loi qui est passée il y a 5-6 mois ne concerne que les supermarchés de 400 mètres carrés. Il y a énormément de supermarchés de moins de 400 mètres carrés et ne concerne pas les producteurs. Et les plus gros pourvoyeurs de déchets alimentaires, c'est les producteurs. Ils jettent 30% de leur production. Donc nous, à notre petit niveau, on peut pas les forcer. On essaye de les sensibiliser, ce qui est déjà énorme. Nous, on cherche des solutions globales, des solutions à des problématiques globales, mais à échelle humaine.
Et Grégoire, tu avais peut-être une question à poser sur l'administration, justement, par rapport à cette récupération.
Alors, le Fringant Pony vient d'être autorisé officiellement.
Légalisé
par la mairie de Paris. Quelle réticence il y a eu du côté de la mairie ou quels enthousiasmes il y a eu et qu'est-ce qui a permis effectivement de légaliser cette initiative ?
Alors il y a eu de très beaux enthousiasmes, notamment de la part de la direction des affaires sociales et de la direction des affaires économiques qui ont soutenu le projet depuis le début. Je remercierai jamais assez Antoinette Gull et Karine Saloff. Il y a eu de grosses réticences parce que de la part de la direction des affaires juridiques qui disait mais c'est des squatteurs, ils n'ont rien à faire ici, il est hors de question qu'on les légalise. Ils avaient peur qu'on ouvre une brèche, genre comme si demain tous les bâtiments de la mairie de Paris allaient être squattés. On a dû batailler, ils ont bataillé. La couverture médiatique dont a joué le Fringant Pony a beaucoup aidé, je pense. Ils étaient arrivés à un stade où ils ne pouvaient plus ne pas nous légaliser. Alors les conditions sont un peu particulières, on paye un loyer de 25 000 euros par an et on a à notre charge les travaux qui s'élèvent à 250 000 euros. Donc pour une structure associative qui applique le prix libre, c'est un peu particulier, mais on arrive à un stade où on s'est dit qu'on ne pouvait pas obtenir plus, donc on a finalement accepté. Voilà, pour un bail de 2 ans, renouvelable si tout se passe bien et non renouvelable s'ils ont un projet sur le lieu, on croise les doigts. Voilà où on est à la situation avec la mairie. Donc, je pense que maintenant qu'on a signé, on va pouvoir avoir des relations un peu plus paisibles avec les autres administrations. Et je compte bien les inviter quand on réouvrira pour leur montrer à quel point ce projet est formidable.
Et c'est l'occasion de dire aussi que vous lancez une grande levée de fonds.
Effectivement, oui. Pour commencer la première phase des travaux, on demande aux Parisiens de nous aider à hauteur de 40 000 euros. Effectivement, on leur demande de sortir des sous de leur poche, mais ces sous, en fait, c'est ce qu'ils auraient consommé chez nous à la rentrée. Donc, le moindre centime, en fait, leur sera rendu en consommation. Donc, ils n'auront pas à payer leur menu le jour où ils viendront chez nous. Voilà, en espérant que ça les motive à nous aider. Parce que sans ces 40 000 euros, on ne pourra pas entamer la première phase des travaux.
Et alors, comment faire, justement, pour vous aider ?
C'est assez simple, il faut aller sur la page Facebook du Fringant Pony ou alors directement sur le site de Kiss Kiss Bank Bank, taper Fringant Pony et vous allez tomber sur la campagne de crowdfunding.
Très bien. Alors, on parlait de doggy bag tout à l'heure. On espère que les clients du Free & Pony finissent leur assiette, parce que alors, ça voudra dire qu'il y aura encore plus de gaspillage.
Alors, nous, on fait très attention à ne pas servir des assiettes trop grosses. Donc, généralement, ils les finissent. En ce qui concerne les doggy bags, on a commencé à réfléchir à se lancer dans ce... dans ce, je sais pas, cette industrie, parce qu'on s'est rendu compte que les quelques, je veux pas casser du sucre, mais on s'est rendu compte que les quelques sociétés qui commercialisaient les doggy bags les commercialisaient très cher. C'est 1 euro le doggy bag. Pour un restaurateur, c'est juste pas possible d'investir autant d'argent sur des doggy bags qui en plus souvent ne sont pas adaptés parce qu'ils font 1 litre voire 1 litre 2, ce qui est énorme. Donc on commence à réfléchir, nous, de notre côté, à pouvoir les produire à prix coûtant, et on les vendrait au restaurateur à prix coûtant.
Alors, le gaspillage alimentaire, ce n'est pas que dans les supermarchés et dans les restaurants. Il est aussi chez les particuliers, et on peut observer aussi la tendance zéro déchet chez les particuliers qui va plus loin que le simple tri et recyclage et qui invite tout simplement à créer moins de déchets. Et c'est ce qu'on va voir avec Pauline à la suite d'une petite pause musicale, une seconde pause avec les Spice Girls.
She got G like MC, you liked it on a easy B, you doesn't come for free, she's a real lady. And as for me, how you'll see, slam your body down and whine it all around, slam your body down and whine it all around.
If you wanna be my lover, you gotta get with my friends, make it last forever, friendship never ends. If you wanna be my lover, you have got to give, taking is too easy, but that's the way it is. If you wanna be my
Et on a découvert la réduction des déchets au festival Zero Waste qui se tenait au Parc de la Villette les 30 juin, 1er et 2 juillet en interrogeant Fleur Berlingen, directrice de l'association Zero Waste France, une association qui fait du plaidoyer auprès de décideurs politiques qui sensibilisent les citoyens et qui les accompagnent dans leur démarche zéro déchet.
Alors, le festival Zero Waste, c'est donc 3 journées avec une programmation multiformat. C'est-à-dire qu'on a à la fois des conférences, des temps de réflexion, de débat, et puis des ateliers pratiques où on va pouvoir apprendre directement des choses qu'on va pouvoir mettre en place ensuite dès qu'on rentre chez soi. Donc on a une zone compost, par exemple, où il y a plusieurs intervenants qui se succèdent pour expliquer comment on fait du compost à la maison, dans son jardin ou bien dans son appartement grâce au lombricompostage. On a une zone réparation, pour réparer tout type d'objets, on a une zone fabrication où on peut apprendre à faire soi-même ses produits cosmétiques, ses produits d'entretien, tout ça en mode zéro déchet.
Regardez, ici j'ai ma petite boîte dans laquelle je fais du compost dans mon bureau. Il est encore très humide, donc si là j'essaye de l'étaler, ça sera peut-être moins facile avec celui-là. Il a moins l'aspect crumble, il est un peu plus pâteux.
Bonjour, donc je suis Hélène, je suis bénévole au festival Zero Waste pendant les 3 jours et j'aide à la boutique du festival donc pour vendre plein de produits dans la démarche Zero Waste. Ça va des mouchoirs jusqu'aux couches lavables, les produits cosmétiques et d'hygiène. Il y a des boîtes bento pour emmener son déjeuner, des gourdes.
Je m'appelle Thibaut, je suis bénévole à l'association Zero Waste France et je suis aussi étudiant en sociologie urbaine. Je me suis beaucoup intéressé à l'histoire urbaine du quartier de la Villette et donc j'ai décidé d'amener les participants du festival à la découverte des initiatives qui participent d'une démarche zéro déchet de différentes sortes. Ça part du compostage jusqu'à la réparation de bicyclettes en passant par un atelier de fabrication et de réparation, un Fab Lab qui se situe également à proximité du cabaret.
Le message, ce serait que le zéro déchet, zéro gaspillage, ça vaut vraiment la peine qu'on s'y intéresse, parce que c'est quelque chose qui est à la portée de tout le monde, à toutes les échelles. En fait, le moindre petit geste qu'on peut faire pour réduire sa poubelle, ça a un impact. Donc moi, je trouve ça plutôt positif et encourageant, parce que parfois, par rapport aux problématiques environnementales, on se sent un petit peu paralysé. On se dit, mais qu'est-ce que je peux bien faire, moi, à mon petit niveau? En fait, derrière la poubelle, y a plein d'actions positives à entreprendre. Et quand il y a de l'action, y a de l'espoir.
Et on entendait Fleur Berlingen de l'association Zero Waste France lors du festival Zero Waste qui s'est tenu à la Villette les 30 juin, 1er et 2 juillet. Alors Pauline, bonjour, rebonjour.
Bonjour.
Tu es donc étudiante et tu as choisi il y a quelques mois de passer à un mode de vie zéro déchet. Alors déjà, comment est-ce que cette idée a germé dans ta tête et pourquoi avoir choisi les déchets pour pratiquer l'écologie au quotidien?
Ça fait quand même assez longtemps que je me considère comme écolo, j'essaye d'avoir les bons gestes, les bons réflexes. Et effectivement, ce que disait Flore sur le côté blocage qu'on peut avoir par rapport à l'immensité de la tâche, je l'ai eu aussi. Et j'ai fini par tomber sur le livre de Bea Johnson, en l'occurrence, que j'ai lu, et qui a l'avantage de présenter le mode de vie zéro déchet d'un point de vue un peu maximaliste, c'est-à-dire effectivement les déchets tiennent dans un bocal. Mais elle a couvert un petit peu tous les domaines de la vie d'un foyer, avec des gestes qu'on pouvait adopter. Alors il y a à prendre et à laisser probablement, je sais effectivement le côté positif de la démarche, le côté progressif aussi qui m'a beaucoup plu, et effectivement on y gagne sur beaucoup de plans et il y a quelque chose de très satisfaisant en fait à rentrer dans cette démarche.
Alors quelles ont été justement les étapes vers l'accession à ce mode de vie? Par quoi est-ce que tu as commencé?
Par être sûr que je ne gâchais plus de nourriture. On en revient à ce fameux gaspillage alimentaire, les foyers en sont quand même aussi responsables et donc il faut quand même analyser un petit peu ce qu'on fait chez nous et voilà. Mes gestes, ça a été de supprimer ce qui m'était facile de supprimer, donc les bouteilles en plastique, les fameuses qui se recyclent, mais voilà. Adopter une gourde pour boire partout. Aussi faire mes achats en vrac, je le faisais déjà. Mais voilà, j'ai quand même systématisé cette démarche-là. J'ai fini par adopter le lombricompostage en appartement, donc j'ai mes petits vers de terre chez moi. Donc j'ai réussi progressivement en m'attaquant à plusieurs pièces de la maison, en fait, à chaque fois, la cuisine, la salle de bain, qu'est-ce qu'on peut supprimer comme déchets. Et une fois qu'on met le doigt dedans, on se rend compte que plein d'alternatives existent et qu'il est vraiment possible effectivement de voir son volume de déchets ménagers diminuer de manière assez spectaculaire en fait.
Et justement, quelle est la taille de ta poubelle finalement?
C'est un peu dur. Alors je n'ai pas de bocaux, ça ne tient pas encore dans un bocal. J'ai une poubelle que je sors, mais je peux sortir une poubelle, une 30 litres, tous les mois. Donc je vis seule, mais j'estime que c'est pas mal. Il y a des choses que j'ai pas encore réussi complètement à supprimer, notamment parce que je suis végétarienne et qu'il y a plein de produits pour végétariens qui eux viennent en petites barquettes plastiques, donc il y a quelques éléments sur lesquels je bute, Mais globalement, ouais, j'ai quand même énormément diminué mes poubelles.
Donc, une grande part des déchets ménagers, justement, sont composés d'emballages. Mmh. Quand on voit parfois le volume de produits emballés dans les caisses des supermarchés, on imagine les tonnes de déchets que ça peut produire à l'échelle d'un pays. Mmh. Alors, concrètement, est-ce que tu dirais que c'est facile de réduire ces emballages? Et qu'est-ce qu'on peut faire?
Oui, c'est vrai que je repensais ce matin à la question, en me disant effectivement, en plus, quand on est étudiant, il y a la question du temps, la question du coût que ça pourrait, que une telle démarche pourrait... pourrait poser en termes, voilà, de temps et de coûts. Mais oui, il y a quand même des gestes faciles à adopter. Effectivement, on parle des déchets, les déchets stupides. Il y a des déchets où on n'a pas toujours l'impression de pouvoir les supprimer. Il y a vraiment des déchets stupides. Pensez quand vous achetez des snacks dans un supermarché où on vous vend maintenant des pommes en tranches dans un sachet plastique. C'est une hérésie, c'est hors de prix. Parce que si on ramène ça au kilo, ça fait de la pomme à 13 euros le kilo. Donc voilà, je vous laisse comparer avec des pommes en vrac. Donc à un moment, voilà, tout le monde peut se poser la question. Parce que si c'est là, c'est que ça se vend. Voilà, et chez des gens pressés, chez des gens... Donc à un moment, il faut quand même se poser la question à quel moment est-ce devenu plus simple d'acheter ce petit sachet de pommes pas bonne et cher que d'aller voir au rayon fruits et légumes du même supermarché et d'en acheter un kilo ou moins et voilà, d'avoir des pommes pour la semaine en fait. Donc il y a quand même des gestes qui doivent, ou des réflexes qui doivent être très largement remis en question.
Et concrètement, du coup, comment ça se matérialise toi dans ton quotidien ?
Alors, donc, je disais, je fais beaucoup d'achats en vrac. Donc vous voyez, à la bio, alors c'est surtout dans les magasins bio, effectivement, même si certains supermarchés traditionnels le font aussi. Donc vous avez des grandes bonbonnes où vous pouvez prendre la quantité que vous voulez, et donc le poids est au kilo. J'ai même des petits sacs en tissu pour ne pas utiliser des sacs en papier, donc ça va assez loin. Et là où effectivement je pousse un peu plus loin, c'est que quand je vais au marché, bon, mes fruits et légumes, pareil, j'ai des sacs en tissu, hein, donc je les emballe pas. Mais si je dois par exemple acheter un petit morceau de fromage ou même de la nourriture de chez un traiteur asiatique ou autre, je vais donner mes tupperwares en fait. Donc, parce que sinon, effectivement, tout est emballé en barquette. Mais en fait, il y a beaucoup de nourriture dans les marchés du dimanche ou qui sont vendus sans emballage, ils sont sur les étals. Et si vous amenez votre propre contenant, on va peut-être vous regarder bizarrement une fois, mais en fait, souvent, les commerçants sont assez positifs aussi, sont assez contents de voilà, ils aiment bien voir des gens qui adoptent ces gestes-là. Donc voilà, c'est avec des petits gestes comme ça, mes courses font que je peux faire la plupart de mes courses sans emballage.
Et aller au marché, c'est encore à la portée de tout le monde, donc ça, c'est facile à faire.
Oui, en fait, voilà, il faut prendre le temps, mais de toute façon, il faut faire les courses. Donc, les courses au supermarché, des fois, c'est pas très gratifiant, c'est pas très agréable comme moment. Enfin, voilà, il y a du monde, c'est... Enfin, le marché, c'est aussi retrouver des commerçants, retrouver un semblant de dialogue avec des gens qui produisent, poser des questions sur les produits, sur comment les cuisiner. Ça peut être l'occasion c'est plus une corvée, voilà, c'est essayer de transformer ses courses en autre chose que la corvée utilitaire et voilà, essayer de reprendre du plaisir à découvrir produits et pratiques.
Et on voit que le zéro déchet est très lié aussi à l'alimentation, aux habitudes alimentaires. Est-ce que justement tu aurais une solution pour encourager le zéro déchet en cuisine? Une solution qui ne prenne pas plus de temps, parce qu'on sait que les étudiants sont adeptes des plats transformés, emballés.
Alors, c'est vrai qu'on ne peut pas mentir complètement sur le fait qu'effectivement, les étudiants, des fois, peuvent être empêchés par leur logement, par leur, voilà, par l'équipement qu'ils ont. Malgré tout, l'idée d'avoir des produits simples comme du riz ou des pâtes, sans emballage, voilà, qu'on va pouvoir après accommoder comme on peut, avec des légumes. On a quand même le moyen de composer des plats assez simple, il ne suffit pas d'être un grand chef, simplement effectivement revenir à des produits plus bruts, prendre le temps de cuisiner. Et alors, si on prend le temps de cuisiner et si on peut, essayer d'en faire des plus grandes quantités pour soit congeler si on a la chance d'avoir un congélateur, soit au moins avoir quelque chose pour une part pour le lendemain. Et donc voilà, on peut retomber sur ses pattes en termes de gain de temps.
Et je crois que Grégoire avait une petite question à te poser.
Et à Paris, comment est-ce qu'on peut s'initier à ça? Comment est-ce que qui est-ce qu'on peut aller voir, par exemple? Je sais que pour le compost, par exemple, beaucoup de gens souhaitent faire du compost, mais c'est pas forcément facile.
C'est pas facile. Ça se développe au niveau des immeubles collectifs, au niveau des quartiers. Le lombricompostage, effectivement, c'est pas, par exemple, c'est vrai que voilà, si on n'y connaît rien, mais que ça nous intéresse, on n'est pas forcément aidé à l'heure actuelle dans Paris. Mais en fait, il y a une communauté en ligne qui existe, des gens qui donnent leurs lombriques d'appartement ou de jardin. Et du coup, si ces gens-là les donnent, ben, c'est aussi des mines de conseils. Et voilà. Encore une fois, les communautés en ligne, c'est vrai que la ville prend un petit peu le train du zéro déchet, mais il y a beaucoup de choses qui se passent en ligne sur les réseaux sociaux. Et du coup, on retrouve voilà, le partage d'informations sur ces réseaux-là.
Donc on n'est pas tout seul avec ces vers de terre.
Non.
Est-ce que tu dirais aussi que c'est économique, ce genre de pratique, et du coup intéressant pour les jeunes et les étudiants?
Oui, je pense, même si effectivement, quand on commence à prononcer le mot de magasin bio tout de suite, voilà, on se heurte à l'argument, mais bien sûr, mais toi, tu dois avoir les moyens. Encore une fois, tout est une question de repenser la consommation. C'est sûr que si on veut consommer comme dans un supermarché traditionnel qui casse les prix sur un certain nombre de produits transformés en bio, on y laisse quelques plumes au niveau porte-monnaie. Maintenant, encore une fois, comme il s'agit de diminuer, déjà de lutter contre le gaspillage, parce que les étudiants ne sont pas à l'abri du gaspillage, donc ça, c'est de l'argent qui part. Quand on repense sa consommation, quand on essaie d'aller vers le minimum, et si je sors aussi des questions alimentaires, par exemple, quand on essaie de consommer d'occasion plusieurs types de produits, que ce soit des vêtements, de l'électroménager, autant de choses sur lesquelles certains peuvent encore avoir des réticences, ben là, on re-rentre dans l'économie circulaire et voilà, on remet des produits un petit peu qui sont encore viables, les vêtements ou autres, sur le marché. Donc, oui, en termes d'économie, on y gagne.
Et d'ailleurs, on entendait une bénévole là, sur le festival Zero Waste parler d'objets qui sont vendus dans la boutique. Quels sont les objets indispensables qu'il faut avoir chez soi quand on fait du zéro déchet?
Voilà, le kit. À acheter d'occasion si possible, même si bon, là, c'était une boutique avec, effectivement, il y a quand même des initiatives qui se mettent en place et qui vendent du neuf. Mais une bouteille, donc une gourde en fait, il y en a des jolies, pas forcément la gourde pour enfants, quoi, mais voilà, quelque chose pour éviter les bouteilles d'eau, si on est prêt à boire l'eau du robinet, mais bon, on est quand même beau, elle est potable à Paris en tout cas. Des sacs en tissu, ça peut être pratique, effectivement, pour emmener voilà, tout ce qui est produits secs vendus en vrac dans les boutiques bio, que ce soit des pâtes, du riz, même si bon, ils fournissent des sacs en papier, c'est un moindre mal. Et puis, ouais, ça remet un petit peu de Tupperware ou de bocaux en verre, si on est anti-plastique comme certains. Voilà. Mais simplement des Tupperware quand on fait ses courses, où on peut mettre certaines denrées humides, donc du fromage ou des plats préparés, sans qu'ils aient à produire eux, des emballages.
Justement, Elder et Aladdin, est-ce que vous avez, vous, un geste zéro déchet votre préféré?
Alors nous, c'est vrai qu'on nous pose souvent la question au Freegan, qu'est-ce que je peux faire pour réduire mes déchets alimentaires? On leur explique tout simplement qu'au moment d'aller faire leurs courses, ils doivent regarder ce qu'il y a dans leur frigo pour ne pas racheter la même chose, parce qu'un consommateur lambda, il est assez, sa manière de consommer, c'est assez classique, c'est-à-dire toutes les semaines, le samedi, il va aller faire ses courses, il va acheter exactement la même chose que la semaine précédente. Et souvent, il va se rendre compte que son frigo est à moitié plein, donc il va jeter ce qu'il avait acheté la semaine précédente. Donc, tout simplement, on regarde ce qu'il y a dans le frigo et ensuite on achète en fonction pour pouvoir cuisiner ce qui est resté. Et puis aussi, aller faire ses courses le ventre plein. Parce que quand le ventre plein, on a tendance à beaucoup moins acheter des choses un peu stupides, type des trucs sucrés, quoi. Et pour parler d'objets, bon, y a un objet que j'adore. Je suis trop dégoûté de ne pas être une femme pour l'essayer, c'est les cups. Non mais c'est fou, cet objet
dommage.
Est incroyable, quoi. Je comprends pas pourquoi toutes les femmes ne l'utilisent pas. J'ai découvert ça au salon vegan Vegan World.
Et de plus en plus de femmes l'utilisent.
Oui. Et ben c'est une très bonne chose. J'espère que ça va aller en.
Voilà. Et vous, Elder, votre geste zéro déchet?
Alors c'est pas vraiment un geste, c'est juste un choix. Moi j'ai un petit frigo, donc j'ai quatre enfants, mais un petit frigo, et donc j'oublie rien dans mon frigo parce que je suis obligé de faire de la place. Et donc, il n'y a pas de gaspillage grâce à la taille du frigo.
Oui, sommes-nous obligés de mettre un certain nombre d'aliments au frigo, finalement? Pas tous, en
déjà,
fait.
Déjà, il y en a beaucoup qu'on n'a pas besoin de mettre au frigo. Et puis, le fait d'avoir un petit espace de stockage, finalement, ça permet aussi de renouveler, d'être sûr de renouveler quand il faut. Et je voudrais juste dire une petite chose contradictoire par rapport à ce que j'ai entendu. Moi, il me semble que c'est facile, en fait, de faire du lombricompostage, par exemple. Je trouve ça très, très simple. Alors, c'est nouveau, donc c'est toujours la nouveauté, c'est toujours un peu compliqué de passer le cap. Mais une fois qu'on le fait, Moi, ça fait 10 ans que je fais du lombricompostage sur mon balcon dans le 19e et voilà, ça ne m'a jamais posé de difficultés. J'avais voulu faire ça en disant surtout, je ne m'en occupe pas. Hein, je mets mes trucs dedans et puis voilà. Et puis en fait, ça se passe très tranquillement, très très bien. Ça ne produit même pas beaucoup de compost. J'ai plus de pots que de compost produit. Donc voilà, en fait, c'est très simple. Il faut juste le faire. Et puis, une dernière chose que je voulais dire aussi, qu'on n'a pas du tout dit, c'est que. Il y a un présupposé qui est de dire, oui, quand on fait des trucs environnementaux, c'est mauvais pour l'emploi. Voilà. Et en fait, là, dans les déchets, c'est exactement l'inverse. Hein. On comparait tout à l'heure le supermarché par rapport au marché. Mais justement, la particularité du marché, c'est qu'il y a des vendeurs qui sont là. Donc finalement, les emballages dans les supermarchés, ils ont remplacé des vendeurs. Voilà. Donc c'est intéressant aussi à avoir en tête. Et quand on trie ces déchets, pour 10 000 tonnes de déchets triés qui vont dans un centre de tri, on a 30 emplois dans le centre de tri. Quand on le met dans une décharge, on en a un. Quand on le met dans un incinérateur, on en a trois. Donc si on veut créer des emplois avec l'environnement, il faut trier ces déchets.
C'est un beau message et je crois que Jonathan, notre réalisateur, avait une question pour vous.
Oui, c'était pour Aladdin et Elder surtout. Je voulais savoir si vous saviez si dans le domaine éducatif, des choses commençaient à se faire sur le thème des déchets. Et si ce n'est pas le cas, est-ce que vous souhaiteriez qu'un vrai programme d'éducation sur ce thème-là, d'éducation sur les déchets, se mette en place ? Parce que j'ai l'impression que pour le moment, les enfants et les jeunes générations ne sachent vraiment pas bien de quoi il est question et se représentent tout ça. Donc, Aladdin ou Elder ?
Alors, je ne sais pas s'il existe des programmes. C'est trop drôle parce qu'il y a deux jours, quand on a fait une petite sauterie pour fêter la signature du bail, certaines personnes de la mairie sont venues et on s'est mis à parler de ce sujet. On s'est dit que c'était vraiment intéressant d'avoir les écoles du quartier qui viendraient chez nous pour être sensibilisées aux gâchis alimentaires. Voilà, on réfléchissait à comment on pouvait mettre ça en place.
Et Elder ?
Oui, il y a beaucoup de choses qui se font, peut-être jamais assez, mais il y a énormément de choses. Hein. Il y a 10 ans, on avait mis en place le tri dans les écoles parisiennes pour les emballages et le papier, par exemple. Depuis, il y a plein de choses qui sont sur le gaspillage alimentaire. Il y a une association qui s'appelle Pic Pic Environnement qui fait plein de choses sur cette question-là, mais il y en a beaucoup d'autres. Et je ne suis pas très inquiet. Il y a un foisonnement, parce qu'il y a une demande culturelle qui est de plus en plus forte sur les questions de déchets. Donc il y a aussi un foisonnement d'initiatives en matière d'éducation.
Et il y a des choses aussi qui se font sur les campus, hein, on peut le dire aussi. Pauline, tu es donc étudiante à l'ENS à Paris, et il y a des initiatives dans le domaine du zéro déchet.
Oui, tout à fait. Donc, il y a une association écolo anormale qui est EcoCampus. Donc, ils ont un site, etc. Et cette année particulièrement, moi, je n'ai pas eu le temps de participer, mais j'ai suivi de loin quand même leurs actions. Et cette année, ils ont vraiment mis l'accent sur le gaspillage. Il y a eu la disco soupe. Ils font du compost depuis quelques années maintenant parce qu'on a un petit potager. Donc, les étudiants sont incités à composter leurs déchets de cuisine. Là, par exemple, c'est vraiment tout récent, mais on a des internats, les chambres se vidaient et les internes souvent laissent comme on a les cuisines, vont laisser justement des denrées non périssables, ils vont laisser un paquet de pâtes à moitié. Donc ils ont pris l'initiative de récupérer les denrées non périssables des internats quand les internats viennent de se vider là, pour les donner à des banques alimentaires, à des associations. Donc voilà, ils mettent cette année l'accent sur là aussi sur la lutte contre le gaspillage.
D'ailleurs,
juste dire qu'il y a énormément d'initiatives. Par exemple, dans l'école de mes enfants, ils ont un composteur et maintenant il y a une concurrence entre le composteur de la maison et celui de l'école parce qu'ils veulent amener les déchets, les épluchures à l'école pour pouvoir le mettre dans le composteur.
Alors lequel sort vainqueur en général ?
C'est toujours les enfants qui sortent vainqueurs.
Alors, il faut aussi noter l'existence d'un guide Zéro Déchet sur les campus, réalisé par Zero Waste France, avec plein d'idées justement pour mettre en place des initiatives Zéro Déchet dans les universités et dans les écoles. Co-écrit avec le REFED d'ailleurs. Et on va laisser la parole maintenant à notre chroniqueuse Anna, qui a quelque chose à nous dire sur les astuces Zéro Déchet.
Oui. Non, je vais prendre celui-là. Oui, car la période étudiante est souvent liée à sa première installation dans un appartement et au moment où l'on va prendre des habitudes de vie que l'on va garder ensuite. C'est donc un moment idéal où l'on peut réapprendre à faire attention à ce que l'on consomme.
Pourtant, consommer de manière durable peut paraître compliqué quand on a à peine le temps de bien manger, qu'on s'achète des sandwichs le midi ou des salades préparées, et quand on n'a pas forcément les moyens d'aller acheter ses aliments dans des biocoops.
Oui, alors pour réduire ces déchets, on n'est pas obligé de se rendre dans des magasins bio ou de payer plus cher. Il s'agit avant tout de refuser tout ce qui est superflu et de faire attention à ce qu'on achète. Un exemple, c'est les cadeaux offerts dans les supermarchés. Quand on achète un produit et qui termine souvent dans notre poubelle. Il faut donc éviter de participer à cette création de déchets inutiles.
Et pour acheter ces fruits et légumes dans un supermarché, comment est-ce qu'on fait pour éviter les sacs plastiques ?
Alors, les sacs plastiques à usage unique sont en train de disparaître des magasins en France. Du coup, pour éviter d'avoir à acheter des sacs, il faut essayer d'avoir toujours des sacs en tissu sur soi et pourquoi pas en utiliser pour les fruits et les légumes du supermarché.
Alors, parfois, il semble que certains déchets soient inévitables. Pensons par exemple aux mégots de cigarettes pour les fumeurs.
Oui, parfois on est obligé de jeter, à moins d'arrêter de fumer. Il faut cependant éviter certaines choses comme jeter son mégot par terre. En plus du fait que des mégots au sol, visuellement, c'est pas joli, et que l'on risque une amende, lorsque l'on met un mégot par terre, il y a des chances pour qu'il se termine dans les égouts, en fait. Le site Zero Waste France explique qu'il faut... En effet, jusqu'à 500 litres d'eau par mégot et qu'un mégot contient plus de 4000 substances nocives, dont la nicotine, les pesticides et les métaux lourds. Or, tout cela risque ensuite de se retrouver dans l'océan. Donc, conservons nos mégots s'il n'y a pas de poubelle dans les alentours plutôt que de les jeter par terre.
Alors, on voit que, par exemple, dans certaines universités, il n'y a pas encore le tri des déchets, même le tri des déchets n'est pas fait. Comment se donner le courage d'agir contre les déchets quand on sent que notre action est isolée et quand on sent qu'on est un peu seul?
Oui, alors peu de choses sont faites au sein des universités, enfin dans la mienne en tout cas, pour la réduction des déchets. Et pourtant, selon une étude du REFED, le réseau français des étudiants pour le développement durable, qui affirme que 2 étudiants sur 3 souhaitent que leurs établissements agissent pour la prévention, la réduction et le tri des déchets. Il y a donc une attente des étudiants. Après, ce qui est le plus difficile, mais pas le plus insurmontable, c'est de mobiliser tous les acteurs de la vie de campus, comme l'administration, les professeurs, les cuisiniers et les étudiants. Du coup, ça fait du monde à persuader, mais comme dirait Gandhi, sois d'abord le changement que tu veux voir dans le monde.
Merci beaucoup Anna pour ces petites astuces zéro déchet. Et puisque ce sont les vacances sur Radio Campus Paris, nous allons écouter Farah qui va nous parler de déchets un peu particuliers. Ah Farah, alors on va peut-être s'écouter une musique avant, hein, comme ça on sera un peu plus léger.
Radio Camping Paris, c'est tout l'été du lundi au jeudi de 19h à 20h sur le 93.9. Thank you.
Ah, l'amour de vacances. Le vrai, c'est celui qui ne dure jamais plus d'un été. Celui qui est léger, sans dispute ni responsabilité. Vous voyez, Rosé, il est beau, sexy, musclé. Oui, mais c'est l'été et certains détails de sa personnalité vous ont échappé. Si bien que votre doux amant se transforme bientôt en parasite, vous encombrant de SMS ou messages Facebook, poke ou encore autre appel de phare. Farah, tu es venue nous donner 5 bonnes raisons de ne pas rappeler un amour de vacances pour remettre le couvert.
Oui, Anne-Sophie. À l'occasion de cette thématique sur le zéro déchet, je me suis dit qu'il était d'ordre public de vous donner 5 raisons de ne pas poursuivre avec un amour de vacances en vous indiquant ces choses qu'on ne remarque pas pendant cette période estivale et qui sont importantes. Dans la première catégorie, la vie quotidienne. Sa tenue en ville. Eh bien oui. Parce que là, tout de suite, il est surtout looké pour la plage, espadrilles, shorts, t-shirts, lunettes de soleil et chapeau de paille. En prime, il est bronzé et vous adorez ses boucles folles, indisciplinées et terriblement sexy. Vous avez du mal à l'imaginer habillé pour aller travailler. Deux options s'offrent à vous. Soit c'est un homme d'affaires, il est 5 jours sur 7 en costard, cravate, chaussures cirées, attaché case et trench coat, avec les cheveux bien gominés et le teint blafard des gens qui passent plus de temps dans le métro qu'au bord de l'eau. Autre cas, il est ouvrier ou il travaille au grand air, il est toujours en uniforme, les doigts pleins de cambouis, les cheveux en bataille et des chaussures de sécurité aux pieds. Bref, de la plage à la ville, le look de votre amour de vacances risque de changer du tout au tout, en portant avec lui son image idyllique.
Oh, dommage. La deuxième bonne raison alors ?
Sa radinerie, bien oui, sa radinerie. Cet été, votre amour de vacances vous a offert moult glaces et pizza à la pizza du camping, ou bien ce petit bracelet brésilien sur lequel vous aviez craqué lors d'un marché nocturne. Mais de retour à la vie quotidienne, il rechigne pour payer l'addition et multiplie les stratagèmes pour reporter ses achats. Oh, on attendra les soldes, chérie, j'ai oublié de réapprovisionner mon compte, mon salaire ne tombe que dans 15 jours, c'est l'anniversaire de ma mère demain.
Comme par hasard, non mais franchement. Alors, en parlant de maman, Farah, n'est-il pas vrai que les embruns de l'été et les multiples cocktails en bord de plage ont contribué à l'ellipse de certains détails, comme la relation qu'entretient votre amant avec sa maman ?
Eh bien oui, toujours Anne-Sophie. L'anniversaire de sa mère, justement. C'est l'événement principal de son emploi du temps en vacances. Il avait coupé son forfait international et n'avait de toute façon pas de poche pour y glisser son portable. Désormais, il est sans arrêt scotché à son écran pour répondre aux incessantes sollicitations de sa maman. « Tu dînes à la maison demain, mon bichon ? Je t'envoie ma recette de pâte au feu. Elle est bien meilleure que celle de Jessica, ta copine. Bon week-end, mon poussin. » Il faut se rendre à l'évidence, vous ne serez jamais sa priorité, a fortiori si sa maman ne voit pas cette idylle d'un bon œil.
Et côté vie personnelle, il y a certains détails que José, cet amour de vacances, a finement dissimulé. Quels sont ces détails, Farah ?
Eh oui, nous rentrons dans la deuxième catégorie, les détails qu'il a oublié de vous mentionner. Par exemple, ses goûts cinématographiques. Et oui, de retour à la vie de tous les jours, arrive le moment fatidique du choix du film. Le dernier blockbuster avec Megan Fox et des robots, une comédie romantique avec Julia Roberts, ou une version restaurée d'un film de la nouvelle vague, alors que vous espériez qu'il vous emmène voir Jules et Jim, pardon. Il vous lance « Oh cool, je suis fan de Megan Fox, quelle bonne actrice !» Passons. Restons du côté de la finesse et de l'élégance en évoquant ses potes. Et oui, ses potes. Quand vous l'avez rencontré, il était seul, ou à la rigueur avec son meilleur ami. Mais si l'un de ses amis est charmant, attendez de voir les autres. Blague salace sur blague grivoise, vous en aurez vite marre de l'humour des ados de ces grands gaillards. Le pire en tout ça, il adore ses potes et rigole à toutes leurs vannes. Enfin, cherry on the cake, ses ex. Qui n'ait eu qu'une histoire d'amour ou plusieurs ex-petits amis, a priori, il ne les a pas emmenés en vacances. Mais une fois rentré dans le quotidien, vous risquez de vite vous apercevoir de ses nombreuses conquêtes. Un commentaire un peu acerbe sur les réseaux sociaux, laissé par une certaine Stéphanie. De nombreux coups de fil tardifs alors que vous êtes en pleine session Skype. Un verre juste comme ça avec Laura, son ex. Les amours passés ont vite fait ressurgir et de vous pourrir la vie, ou bien de vous donner l'envie de ne pas insister plus longtemps et de vous rejoindre, vous aussi, la bande de ses ex.
Merci, Farah. Et donc, on passera au crible nos amours de vacances cet été pour faire attention à ces détails.
Oui, take care.
Take care. Et ce soir, c'est la première de Radio Pépin. Donc, nous allons les accueillir tout à l'heure. Mais en attendant, je vous remercie tous d'être venus ce soir. Elder de Oliveira de l'Ordif, merci beaucoup. Aladin Charny du Frigan Pony et Pauline Vallée, adepte du mode de vie zéro déchet. On se retrouve bientôt sur Radio Campus Paris pour d'autres thématiques déchets. Et d'ici là, on vous souhaite une très bonne soirée.